Pour poursuivre les débats, j'invite à nous rejoindre sur l'estrade les collègues de l'Université libre de Bruxelles, Barbara Truffin, Nicole Gallus, Erika Rackley de Durham University et Paul Martens de plusieurs universités belges, mais surtout président émérite de la Cour constitutionnelle.
Voilà, un tout grand merci pour ces différents exposés qui étaient très stimulants et qui nous invitaient donc à repenser, à reconceptualiser la question de l'impact de la présence des femmes dans la magistrature et pour alimenter ce débat, le remettre sous une autre forme et à travers différents types d'expériences professionnelles et académiques. J'ai le plaisir de présider une séance qui nous permettra d'entendre d'une part Madame Nicole Gallus qui est chargée de cours à l'Université libre de Bruxelles et qui enseigne le droit de la famille et la bioéthique et qui a une expérience de praticienne aussi fortement ancrée dans la justice familiale. Et nous avons vu que la justice familiale posait ou permettait de penser la question de l'impact d'une certaine manière. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter M. Paul Martens, qui a été président de la Cour constitutionnelle de Belgique, qui a aussi été chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Liège, et qui pourra aussi nous donner un éclairage à partir de sa pratique professionnelle, qui est autant praticienne qu'académique, notamment dans le champ de la sociologie juridique. Enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Madame Erika Rackley, qui enseigne, qui est professeure à Durham University, où elle a participé à de nombreux projets de recherche sur le genre et la justice, et elle nous entretiendra très certainement d'une expérience tout à fait novatrice et intéressante qui avait été dont le format a été évoqué en partie par Madame Tulkens tout à l'heure quand elle évoquait les travaux d'Eva Brems, puisqu'ici il s'agit du Feminist Judgment Project, donc un projet qui invite un ensemble de participants à réécrire des jugements dans une perspective féministe. Alors pour un petit peu structurer ces présentations et peut-être donner un mini cadre de réflexion pour essayer d'appréhender cette question de l'impact de la présence des femmes au sein de la magistrature, il me semblait qu'à travers les différentes contributions que nous avons entendues, il y avait différentes manières de la situer. Donc il y a un impact plus général dont on a parlé tout au long de ces journées et qui est plutôt l'enseignement pédagogique de réalisation d'une égalité d'accès dans les professions juridiques, hein, que cette présence et cette majorité pourrait témoigner et pourrait, par cet effet-là, par cet effet performatif, transformer aussi et consolider une société plus égalitaire. Enfin, il y a cette question de l'impact sur les décisions de justice. Et on a vu que nos différents intervenants l'ont touché dans différents aspects. La décision dans son contenu, on vient de voir que c'est pas très, très évident, que c'est pas ce qui ressort le plus facilement. Dans le style, dans la dissidence, ça c'est peut-être déjà une autre approche. De manière générale, nos intervenants nous ont invités à ne pas tomber dans le piège de l'essentialisme et de ne pas réduire la présence des femmes à leur sexe et donc de ne pas envisager cette présence comme un seul facteur réduit et qu'on pourrait isoler et qui s'imposerait aux femmes elles-mêmes et qui leur dicterait leurs décisions. Enfin, il y avait cette question de l'impact de la présence des femmes dans la représentation de genre que les magistrats et les magistrates produisent eux-mêmes, et puis la question de l'impact supposé de la présence des femmes ou de la surreprésentation des femmes qu'elles pourraient avoir sur les justiciables, cette question de confiance ou de méfiance, et évidemment l'ensemble de ces impacts et la manière de les mesurer varient, et donc les méthodologies vont varier aussi, ainsi que sans doute les objectifs qui sont assignés à cette présence. Un autre axe de réflexion qui était aussi présent tout au long de cette journée était de savoir comment finalement favoriser une justice qui tendrait vers un horizon plus égalitaire, hein, puisque Madame Judith Rethnick a dit très clairement hier que l'absence de femmes est un signe d'inégalité, mais que leur présence, la parité, n'entraîne pas automatiquement d'égalité. Hein. Donc comment favoriser un droit, des cultures juridiques, puis c'était de ça dont il était question, qui pourrait intégrer des points de vue différents qui seraient plus... qui penserait un petit peu différemment. Donc voilà un petit peu les axes de réflexion que chacun de nos intervenants pourront aborder. Je vous propose tout de suite d'entendre Madame Nicole Gallus. Merci.
Je vous remercie d'abord pour cette invitation, mais je voudrais insister sur le fait que je n'ai jamais étudié la question de l'impact de la féminisation de la magistrature, ni en théorie, ni dans la jurisprudence, ni de façon empirique, et que ce que je vais vous dire, c'est donc uniquement le point de vue d'une praticienne avocate dans le seul domaine du droit familial, c'est-à-dire un domaine précisément où les femmes magistrates sont très nombreuses, à tout le moins au niveau du tribunal de première instance, ainsi que Caroline Simon vous l'a indiqué. Je dirais que personnellement, dans ma pratique, qui quand même couvre un grand nombre d'années, je n'ai jamais ressenti réellement d'impact du genre sur la fonction de juger au sens du contenu de la décision. Je n'en ai pas senti non plus sur les différentes qualités qui ont été citées par les intervenants, telles que la sérénité, l'assiduité, l'impartialité, la compétence ou la légitimité du juge. Alors, bien sûr, il y a des différences entre les juges, et il nous arrive souvent, lorsque nous recevons la copie d'une décision, de nous dire que si les hasards des fixations nous avaient amenés à plaider devant un autre juge, nous aurions probablement obtenu une décision différente. Mais il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'expliquer cette différence par référence au seul facteur du genre. Si je ne perçois pas vraiment d'influence du seul facteur du genre sur le contenu de la décision, il me semble par contre percevoir souvent une différence sur le processus décisionnel au plan notamment de l'incitation à la médiation, qui est une technique de résolution des conflits auquel notre législateur fait souvent référence dans les récentes réformes du droit de la famille. Pour des motifs que je ne m'explique pas totalement, il me semble que les juges femmes sont plus sensibles à ce processus. Et on peut d'ailleurs faire une comparaison avec une autre fonction de l'ordre judiciaire que sont les avocats. Si vous prenez l'ensemble des avocats qui se spécialisent en droit de la famille, alors bien sûr il y a plus de femmes que d'hommes, mais si vous prenez la proportionnalité, il y a beaucoup plus de femmes avocates qui se sont formées à la médiation ou au droit collaboratif qu'il n'y a d'hommes qui ont fait le même cheminement. J'ai l'impression parfois, et encore une fois c'est une impression toute subjective et toute personnelle, qu'un homme juge, consciemment ou inconsciemment, par tradition, par histoire, par impact social, est plus investi du sens de la mission juridictionnelle. Il a plus l'impression, je trouve, que cette mission juridictionnelle relève de la fonction du magistrat, alors que les magistrates femmes me paraissent plus enclines à la délégation de leur pouvoir à l'incitation, par l'incitation des partis au recours à des techniques de médiation. C'est une impression que j'ai en fréquentant les juridictions de droit familial, mais une fois encore, j'insiste sur le fait que c'est une impression personnelle qui n'a été vérifiée par aucune analyse objectivante. Alors, si je ne perçois pas, ou en tout cas peu d'impact du seul genre sur la fonction de jugé au niveau du juge et du contenu de sa décision, il me paraît par contre très clair que le genre a un impact sur la perception par le justiciable du rôle du juge familialiste. Mais encore une fois, je pense qu'il est difficile de mesurer cet impact ou d'en définir les éléments justificatifs qui sont très variables et qui sont très variables à la fois selon la question qui est posée et selon les justiciables. Il me paraît que très souvent, un justiciable homme qui doit solliciter un hébergement alterné égalitaire de ses enfants auxquels s'oppose la mère de des enfants va avoir l'impression qu'il a plus de chance s'il est jugé par un homme parce que cet homme serait présumé plus sensible ou plus proche de ses préoccupations de père. Par contre, si vous prenez l'exemple d'un justiciable qui conteste la pension alimentaire qui lui est réclamée par son ex-conjoint, je peux vous dire que, de par la pratique, nous avons des réactions extrêmement différentes. Il y a certains hommes qui préféreront avoir la possibilité d'être jugé par un homme parce qu'ils se sentiront en quelque sorte rassurés par le fait qu'ils ont un magistrat qui est censé ou qui est supposé peut-être être plus solidaire de leurs préoccupations financières, mais d'autres hommes vont considérer qu'un juge femme sera plus proche de leurs préoccupations parce qu'un juge femme, c'est une femme qui travaille, c'est une femme qui travaille pour pouvoir s'assumer financièrement et qui donc peut-être sera assez critique par rapport à une femme qui réclame une assistance alimentaire. Donc on a des réactions qui sont très diverses, qui sont aussi empreintes de beaucoup de subjectivité et qui me paraissent souvent, au-delà de la question du genre, traduire la crainte que le justiciable a face au processus judiciaire et face à une certaine dépossession de son dossier par le processus judiciaire. Ce qui signifie qu'il est extrêmement difficile dans la réaction du justiciable de voir des manifestations qui seraient liées au seul genre ou à la perception ou à la seule perception du genre. Il y a des facteurs nombreux qui peuvent expliquer la réaction que le justiciable a devant la présence d'un ou de plusieurs magistrats femmes dans le traitement de son dossier. Donc beaucoup d'interrogations. La pratique ne me permet pas d'avoir une idée définitive sur l'impact du genre et en tout cas ne permet pas d'isoler l'influence du genre par rapport à d'autres éléments qui interviennent, et qui interviennent à la fois si on se place du point de vue du juge ou si on se place du point de vue du justiciable. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que j'ai été très, très sensible à ce qui a été dit par plusieurs des intervenants qui soulignaient, Barbara Truffin vient de le dire, que l'absence des femmes dans la magistrature est certainement une manifestation d'inégalité, mais que la présence des femmes n'est pas pour autant une garantie d'égalité et de légitimité de l'institution. Et sur ce plan-là, je suis aussi sensible à la différence qui me paraît devoir être faite entre l'égalité et la parité. S'il me paraît évident que la magistrature est ou doit être à l'image de la société et que par conséquent les femmes y ont évidemment leur place, je pense que l'égalité ne se mesure pas en termes de quota de genre. Le quota me paraît ne pas être en tout cas une solution miracle, puisqu'en toute hypothèse, le pouvoir judiciaire, ce n'est pas une vaste assemblée délibérative décisionnelle, ce sont des chambres qui sont amenées à rendre des décisions. En droit de la famille, ce sont des chambres à un ou à trois juges, et par conséquent, le quota dans l'accès des femmes à la magistrature ne sera pas la solution miracle, ni dans la fonction de juger, ni dans la perception du juge par le justiciable. Je crois donc, et ça a été souligné par tous les intervenants, que l'égalité est avant tout une égalité de chance, c'est-à-dire une égalité d'accès à la magistrature, à tous les niveaux de juridiction. Cela a été répété à plusieurs reprises. Je voudrais simplement ajouter que, à cette égalité d'accès à la magistrature, il me paraît aussi important d'ajouter une égalité d'accès à la justice, pour le justiciable bien sûr, mais d'ajouter également l'importance de la formation spécifique des magistrats. Alors, la formation spécifique des magistrats est quelque chose auquel le législateur a été sensible, puisque dans la loi sur le futur tribunal de la famille qui sera en principe mis en place au 1er septembre 2014, il y aura cette obligation de formation spécifique des magistrats qui vont siéger dans les chambres de la famille. Je crois que cette formation est indispensable parce qu'elle va amener à une meilleure connaissance de la matière, par conséquent à une meilleure motivation de la décision, et Madame Tulkens a souligné ce matin combien la motivation était importante pour créer la distance entre la subjectivité ou les caractéristiques personnelles du magistrat et la décision qu'il va rendre. Et je pense donc que c'est à la fois par cette formation et par cette égalité d'accès des femmes à la magistrature que l'on va pouvoir réaliser cette diversité de genre comme condition de légitimité du pouvoir judiciaire. Et quand on parle de légitimité du pouvoir judiciaire, c'est bien sûr au niveau de la représentation de la société, de l'égalité des droits de l'homme et de la femme, mais c'est aussi au niveau du respect des justiciables. Et quand je dis respect des justiciables, j'envisage deux choses. C'est à la fois le respect de l'institution judiciaire pour le justiciable et le respect que le justiciable a pour l'institution judiciaire. Je vous remercie. Merci.
Monsieur Paul Martens, merci.
Merci. Comme tout le monde, je suis très heureux d'être ici. Mais la première question que vous vous posez sans doute, c'est pourquoi n'y a-t-il qu'une seule femme à la Cour constitutionnelle ? Eh bien, je vous dirai tout de suite, ce n'est pas notre faute. Parce que si le Conseil d'État lui fait des présentations, et si la Cour de cassation donne des avis sur les candidats, nous n'avons absolument pas droit au chapitre. Nous recevons qui on nous envoie sans nous avoir préalablement entendu. Alors, il y a eu cette fameuse loi spéciale de 2003 qui a modifié la loi spéciale originaire disant qu'il fallait des femmes à la Cour. Cette question a été bien étudiée par Madame Sophie Wertz dans un livre qui s'appelait « La Cour d'arbitrage 20 ans après ». Alors, on constate qu'il y avait des propositions, qui étaient bien plus forts. Certains disaient 2/3 du même sexe, pas plus. D'autres disaient 1/3 de femmes. Et finalement, c'est la proposition la plus minimaliste qui a été retenue. La Cour d'arbitrage à l'époque, la Cour constitutionnelle, est composée de juges de sexe différent, sexe au singulier, sexe différent. Ce qui fait qu'il pourrait y avoir 11 femmes et un homme. Il peut y avoir un homme. Pardon, il pourrait y avoir, ce n'est pas le cas, 11 femmes et un homme, mais le législateur qui nomme a choisi la solution inverse, il y a une femme et 11 hommes. Alors, pourquoi ? Je me suis posé la question, pourquoi ? Alors que la loi est très large. Eh bien, vous devez savoir qu'il y a 3 corridors pour arriver à la Cour constitutionnelle. Le premier, c'est celui des anciens parlementaires. Alors, est-ce que les femmes parlementaires ont ou n'ont pas envie de siéger à la Cour constitutionnelle? Là, il y a une évolution remarquable. J'ai entendu dire qu'au début, quand un président de parti appelait une parlementaire pour lui dire « tu vas aller siéger à la Cour constitutionnelle », c'était le bataillon disciplinaire. Et puis, la perception de la Cour a évolué. La jurisprudence de la Cour a peut-être convaincu les femmes que finalement, c'était peut-être des hommes sympathiques qui étaient là-bas. Et je peux dire que maintenant, la parlementaire, puisqu'elle est toute seule, qui était à la cour, y est venue avec enthousiasme. Donc, de ce côté-là, ça marche. Le deuxième corridor, c'est ce qu'on appelle des juristes. C'est-à-dire qu'il faut avoir été pendant au moins 5 ans, soit professeur de droit à l'université, soit conseiller d'État, ou membre du conseil d'État, auditeur au conseil, soit membre de la cour de cassation. Alors là, c'est le désastre. Non seulement il n'y en a pas une seule, mais il n'y en a jamais eu une seule candidate. Nous n'attirons pas cette catégorie de femmes. Pourquoi? Je ne sais pas. Et voilà. Alors, il y a le troisième corridor. La loi prévoit que peuvent aussi entrer à la Cour constitutionnelle nos référendaires. Alors, tout de suite, une petite parenthèse. Les référendaires, ce ne sont pas, comme les juges, des gens qui sont choisis par faveur politique. Ce sont des personnes qui doivent se soumettre à un examen très sélectif. Inutile de vous dire que là, c'est presque la parité. Il y a 10 hommes et 8 femmes chez les référendaires. Mais de là à dire qu'une référendaire va pouvoir monter, enfin pas monter, pouvoir rester à la cour, ça n'a jamais marché. 4 référendaires femmes ont posé leur candidature, ça n'a jamais marché. Je vous dirais que quand j'allais quitter la cour, je me suis dit, ben, il serait bien que je sois remplacé par une femme. Et j'avais même un souhait. C'est que l'essentiel de mon travail avait été accompli par une femme qui était ma référendaire. Elle était dans les conditions pour le faire. Alors, comme nous n'avons pas un droit de présentation officiel, nous faisons parfois un peu de lobbying officieux. Vous savez, à la faveur des cocktails de fin d'année ou des enterrements, des mariages, on rencontre parfois des personnes du paysage politique. Et j'ai parlé, justement, je savais que c'est des dames qui allaient prendre la décision. Et je me disais, ça, c'est gagné. Eh bien, non. Il y a toujours une seule femme à la Cour constitutionnelle. Depuis qu'elle y est entrée, il y a eu 3 vacances, et les 3 vacances ont été remplies par des hommes. Par ailleurs, excellent. Mais il y a un problème, à la fois qui tient à une certaine timidité des femmes à rejoindre ces patriarches de la place royale, pour certains secteurs, et d'un autre côté, une volonté du pouvoir politique de garder la main sur les nominations sans se laisser infecté par des questions de quotas, fût-il des quotas indicatifs. Je trouve que c'est tout à fait dommage. On a suffisamment parlé des questions de légitimité, des questions de symbolique, des questions de pédagogie. Donc, il devrait y avoir des femmes à la cour bien plus qu'ailleurs, parce que la cour est le temple du principe d'égalité. Alors qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans les eaux et forêts, c'est regrettable. Mais à la Cour constitutionnelle, vous regardez notre jurisprudence, même si nous avons maintenant une compétence beaucoup plus élargie, c'est toujours les articles 10 et 11 de la Constitution qui sont les moyens rois de la Cour. En plus, je crois que ce qui est dommage, c'est qu'on se prive d'une intelligence avérée. Chaque année à l'université, c'est les femmes qui font les plus gros grades au droit. Chaque année au Conseil supérieur de la justice, c'est les femmes qui ont les premières places au concours. Alors, dire que ces intelligences supérieures n'ont pas accès parce que simplement le pouvoir politique est un peu machiste, je trouve que c'est tout à fait regrettable. J'ai eu un regret quand cette loi de 2003 est sortie, c'est qu'on ne fasse pas un recours. Et on aurait fait ce recours où ? À la Cour constitutionnelle. Alors là, évidemment, on est un peu jugé parti, mais il n'y a pas de possibilité de faire autrement. C'est la seule instance capable de juger les lois en Belgique. C'était intéressant parce qu'en même temps que la loi, qu'on modifie la loi spéciale, on venait d'introduire dans la Constitution un deuxième alinéa de l'article 10 disant que l'égalité entre les hommes et femmes est garantie, et un article 11 bis qui disant qu'il fallait favoriser l'égalité entre hommes et femmes dans les mandats électifs et dans les mandats publics. Et les travaux préparatoires indiquent qu'on devait prendre dans un sens très large les mandats publics. Alors, qu'aurait fait la Cour ? Ah, on ne sait pas. Elle a une formule assez facile qui consiste parfois, quand elle est gênée, à dire que la Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation aussi large qu'une assemblée législative démocratiquement élue. On l'aurait peut-être ressorti. C'est facile. C'est un bouton. C'est tellement fréquent dans notre jurisprudence. Voilà. Mais on aurait pu aussi dire que finalement, on ne savait pas encore comment le législateur allait appliquer cette loi. Ou bien on aurait dit que l'article 11 bis était violé. Si jamais aujourd'hui la question préjudicielle nous était posée à la Cour, ce serait un peu différent. parce qu'on ne pourrait plus dire on ne sait pas comment le législateur va appliquer la loi puisqu'il a fait la preuve de sa mal-exécution. Donc voilà, ça n'a pas été fait, c'est dommage, mais ça prouve aussi qu'il n'y a pas un très grand militantisme, un très grand activisme. Quand on nous a dit hier qu'un auditeur au Conseil d'État est allé jusqu'à l'ONU, je crois, pour faire dire que les quotas du Conseil supérieur de la justice étaient contraires au pacte sur les droits économiques, les droits civils et politiques, ça c'est de l'activisme, c'est un homme. Bon, voilà, c'était la première partie de ce que je voulais vous dire. J'en viens à la deuxième. Et c'est la grosse interrogation de cet après-midi. Les juges, les femmes juges, font-elles une justice différente? Je voudrais bien pouvoir répondre comme Robert Badinter. D'abord, parce que je l'admire, qu'il n'y a pas de différence, que la neutralité du juge est inscrite dans sa fonction. Mais je n'y parviens pas tout à fait. Quand je donnais ici le cours de sociologie juridique, il y a un exemple que je prenais avec mes étudiants qui était quand même assez éclairant. Et il y a quelques années, à Bruxelles, un procès à propos d'un problème de harcèlement sexuel dans une entreprise. Et une dame avait prétendu que son chef de service la harcelait sexuellement. Elle s'en est plainte et la direction a fait une petite enquête et a considéré que la dame en question avait commis une faute grave, et on l'a licenciée sur l'heure pour motif grave. Elle est allée devant les juridictions du travail. Alors là, je suis très bref, mais un peu léger, mais c'est quand même assez démonstratif. Il y a eu une enquête, évidemment, avec les gens de l'usine qui sont venus dire, les uns, c'est une fille charmante, les autres, elle était toujours habillée de manière provocante. Et puis, il y a eu la défense du monsieur, qui a dit, oui, il m'arrive quelquefois de dégrafer le soutien-gorge d'une de mes employées rapidement au-dessus des vêtements comme un enfant délace les lacets de souliers de ses camarades à la récréation. Eh bien, ça a pris. Parce qu'on est devant la cour du travail à ce moment-là et la cour a dit que monsieur un tel, on n'a pas anonymisé dans le journal des tribunaux, mais monsieur un tel, virgule, dont l'adolescence se prolongeait manifestement, ne peut pas être considéré. Et la Cour du travail a dit qu'on avait porté atteinte à son honorabilité et on lui a donné acte de ce qu'il se réservait de réclamer des dommages et intérêts à la dame en question. Et puis voilà que 3 ans plus tard, je vois dans le journal des tribunaux des faits qui sont à peu près les mêmes et qui étaient les mêmes. Le parquet est un peu plus lent que le greffe de la Cour du travail. Et que se passe-t-il là-bas? On va dire, sur la base du même dossier, même personne, même enquête, on va dire le fait pour une femme d'avoir des tenues peut-être un peu légères et son droit, que même son intérêt pour la chose sexuelle ne permet pas les privautés en question. Et le monsieur s'est rendu coupable d'attentat à la pudeur avec violence ou menace. Il avait abusé de son pouvoir. Donc ce que dans une première décision on avait vu comme du folklore d'entreprise, ici ça va être un abus de pouvoir. Alors je vous dis tout de suite que la Cour du travail était composée de M. Blondiot, M. Hendrix et M. Carlier, et le tribunal correctionnel de Mme de Grise, Mme Boucher, Mme Annard et Mme Gaulier au ministère public. Alors, je ne voudrais pas exagérer. On a beaucoup dit des choses très vraies sur les stéréotypes, sur le fait qu'il ne faut pas généraliser, mais il y a quand même un certain domaine de la vie où il est très difficile de faire abstraction de son genre quand on doit juger. Alors j'en reviens à mon sujet et à la cour. Mais écoutez, pour vous répondre, je suis un peu ici comme un imposteur. C'est la juge de la cour qui devrait vous répondre. Je ne savais pas qu'elle serait là aujourd'hui. Elle est là. Et j'ai profité des pauses qu'elle a fait pour l'interviewer. Et je vais essayer de vous reproduire sa pensée. Très, si je trahis ta pensée, tu lèves la main gauche. Mais voilà ce que j'ai compris. C'est que d'abord, Madame Merck se sent seule à la cour. J'ai pu retrouver ce que nous a dit Françoise Tulkens ce matin. C'est vrai qu'on est écouté, peut-être pas toujours entendu. Et je comprends que cette solitude puisse être angoissante. Mais en plus, ce que m'a dit Madame Merck-Vingo, c'est que il y a quand même une approche des affaires qui peut être différente selon qu'on est une femme, selon qu'on est un homme. Le contentieux de la Cour est essentiellement un contentieux qui est fait par les déshérités de la société, ou en tout cas ce que j'appelle les sinistrés de la légalité, plutôt. Ceux qui, la loi étant générale, ont été oubliés au Parlement, ils n'avaient pas la voix assez forte pour les faire entendre. Donc une certaine empathie est importante. Et je me suis toujours rendu compte dans nos délibérés qu'on est plus ou moins empathique. Vous savez, quand nous avons des affaires de droit pénal, il y en a qui aimeraient mieux qu'on remplisse davantage les prisons, d'autres qu'on les vide. Il y en a qui voudraient qu'on y mette des mineurs, d'autres pas. Il y en a qui voudraient qu'on accueille davantage les étrangers, d'autres qu'on en expulse plus. Donc il y a chaque fois une approche qui peut être empathique, ou je ne dirais pas antipathique, mais enfin qui peut être autre. Et c'est ça que j'ai cru comprendre dans ce que m'a dit Tress, c'est qu'il y a une approche des choses où l'empathie existe davantage chez les femmes que chez les hommes. Alors, je m'arrête tout de suite, est-ce que je ne suis pas en train de faire ce qu'on a appelé tout à l'heure du déterminisme identitaire, voire de l'essentialisme, et de sombrer dans un stéréotype. Et c'est alors que Tress m'a donné une explication que je n'avais pas vue jusqu'ici et que j'aime beaucoup. Elle m'a dit, mais ce n'est pas du tout dû à notre genre physique. C'est parce que, hein, comme à la Cour, on n'arrive qu'à 40 ans, on a toujours une expérience antérieure. C'est parce que, traditionnellement, les femmes ont toujours eu, non seulement dans la famille, mais souvent dans leur profession, des professions où on était plutôt attentif aux faibles, tandis que les hommes n'ont pas ce genre de profession. Donc, j'en ai conçu l'idée que je ne risquais pas de tomber dans un essentialisme biologique, parce que ce qui différencie les hommes des femmes, c'est non pas biologique, c'est plutôt biographique. On vient à la Cour avec évidemment son histoire, avec ses convictions, avec sa religion, avec ses souffrances. Donc j'ai compris que je ne risquais pas, je vais peut-être l'être, d'être taxé de simplification, de réductionnisme, en disant que oui, il y a, je pense, une manière d'aborder les choses qui est différente chez les hommes et chez les femmes. Mais j'ajouterai deux correctifs. J'ai encore le temps. Le premier, c'est que, et on l'a dit tout à l'heure, le genre, même tel que je viens de l'expliciter, n'est qu'un des paramètres de la personnalité. Il y a tout ce que je viens de dire d'autre. Donc il ne faudrait pas sacraliser celui-là. Mais deuxièmement, il y a des hommes qui sont plus féminins que les femmes. Et il y a des femmes qui sont masculines. On vient de donner l'exemple de procureurs de la République, hein, c'était à Lille, qui requièrent plus sévèrement que les hommes. Je crois qu'il y a un problème parfois de femmes pleines de bonne volonté, mais qui accèdent à des fonctions tellement masculines, et la répression, je sais si c'est masculin, qui se croient tenues de surjouer pour être crédible. Il y a une bâtonnière à Paris pour le moment, il y en a une il y a 10 ans, quand elle est sortie de là, elle était épuisée. Elle a dit, je n'ai pas cessé de subir des reproches, surtout des femmes. Certaines qui me reprochaient de ne pas avoir fait un bâtonnat suffisamment féminin, et d'autres qui me reprochaient d'avoir fait un bâtonnat masculin, précisément pour être reçu. Donc je crois, et c'est mon deuxième correctif, qu'il n'y a pas que les femmes qui sont empathiques. Il y a des hommes qui le sont, hein. Gandhi, Robert Badinter, l'abbé Pierre. Mais de l'autre côté, vous avez Margaret Thatcher, Marine Le Pen. Donc, l'identité humaine est bien plus aléatoire, elle est bien plus casuistique qu'on ne le croirait. Et j'en termine. Ce que, moi, m'a apporté le féminisme, donc j'ai appris tout à l'heure qu'on peut pas, un homme ne peut pas se dire féministe, mais il peut se dire pro-féministe, hein, si j'ai bien compris. Eh bien, une des grandes victoires du féminisme, c'est que je pense qu'elles ont obligé les hommes à penser autrement. Quand je donnais la sociologie du droit, évidemment, j'étais imprégné des théories malheureusement assez inhumaines, mais bien reçu, hein, le voile d'ignorance. Pour trouver la bonne solution, je dois ignorer qui vous êtes, ignorer qui je suis, me mettre sous un voile d'ignorance, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir trouver la bonne formule à l'issue d'un débat argumenté, hein, Rawls. Et puis, j'ai lu Les féministes américaines. Un livre qui m'a prodigieusement intéressé et que j'ai fait lire à mes étudiants, c'est Repenser le politique, où on s'inspire évidemment des théories de Carol Killiam et de Annette Bayer, de Judith Butler. Et qu'est-ce qu'elles m'ont appris ? C'est que précisément cette histoire du voile d'ignorance, ce culte de l'égalité, c'est une histoire qui m'évite de voir que les autres souffrent, que les autres sont malmenés par la loi, que les autres sont vulnérables. Et c'est ça qu'elles ont réintroduit par cette belle expression qu'on trouve d'ailleurs également chez Paul Ricoeur, qui est l'éthique de la sollicitude. Alors c'est vraiment ça, moi, que je trouve que le grand apport de la pensée féministe, c'est que il y a des valeurs féminines. Je vais me faire critiquer peut-être, mais j'y crois. Mais il y a des hommes qui sont porteurs de ces valeurs. Et j'espère en être. Je vous remercie.
Merci. Je vais maintenant céder la parole au professeur Erika Rickley.
Hi. I know I'm coming at the end of a very long couple of days, so I hope you can bear with me. I was asked to reflect on the papers that had gone before me in this panel, and one of the questions that was asked of me was, well, what would change if women really were different? And I'd like to suggest that one of the things that I think would change if women really were different would be that we'd have better judgments and we'd have better decision making. Why do I think that? Well, if we accept that all decision making is better for having a variety of views involved in the process, then having people coming from different perspectives and having different genders being involved in making those decisions would be a good thing and would improve the decision making. This isn't to suggest that women will all decide in a particular way or that there are particular women's points of views. It suggests that gender is one of a number of things, and certainly not the only thing, but is one of the a number of things that informs judgments. And so I sort of start from that position, and then I was asked to reflect on a project that I was involved in leading with colleagues in the UK a few years ago, and I feel a slight fraud to be still talking about this project. The project finished in 2010, and since we did our projects, there's been a number of other projects, some people which have already been mentioned and people who are already here. We were a project called the Feminist Judgments Project in the UK. There's now one happening in Australia. There's also one happening in Ireland. So it's a movement. And I also need to be clear that we weren't the first to do it. There was a project called the Women Court of Canada, which rewrote a number of judgments and certainly where we took our inspiration from. But anyway, about the Feminist Judgments Project. The Feminist Judgments Project was a collaboration of a number of women, and primarily women, involved in rewriting judgments. We started from the position, or rewriting judgments from a feminist perspective. We started from the position that rather than offering a feminist critique of judgments, we would, from an academic perspective, we would rewrite the judgments to show how they could or should have been decided differently. So it was using the form of judgments as a way of critiquing the judgments that had gone before us. And we wanted to sort of make the academic much more practical, to engage in a real-world exercise of writing these judgments. Unlike the Women's Court of Canada, we didn't constitute ourselves as a court. We were a bit more flexible than that. Although we did, the way in which the project worked was that we had a series of workshops where we got together and talked the judgments through. And the idea of these workshops was to mimic some of the collegiate aspects of judicial decision making. These workshops were awesome. They were an unintended benefit or side effect of the whole project. There were around 60 people involved in the project overall. The workshops would involve the judgment writers, and they would also involve judges and members of the legal profession and activists. And we would be spending 2 days at a time sitting talking about feminism. It was brilliant. So we did that. We also, just to make clear what we didn't do before I tell you what we did do, we also didn't rehear any evidence. So we weren't like the International Women's War Crime Tribunal in Tokyo. We didn't rehear things. We took the facts as given. And nor did we do, and this to the consternation of a number of people who were part of the project, we didn't rethink the process of judgment writing. So there is a feminist project that would critique what judgments are and how they look and what they seek to do. That wasn't our project. Our project stuck to the rules. We wanted our judgments to be plausible and as plausible as possible. And to, whilst being fiction, we wanted them to be able to show how things really could have been decided. There were 23 judgments in all in our collection, and they kind of were all appellate decisions. So we weren't, as I say, we weren't rehearing facts. We covered a number of topics. So we covered the topics that you might expect to be covered. So there were cases involving domestic violence, child custody, reproduction, workplace discrimination, and so on. And we also had a number of cases dealing with sort of various intersectionality in various ways. So we had our own case involving the ability of a schoolgirl to wear a form of Muslim dress. But we also had judgments involved in our project, or judgments rewritten for our projects, that didn't involve people at all, let alone women. So we had judgments that simply involved sort of commercial contracts between two companies, which enabled us to explore the way in which the private and public sphere and the development of sort of public space and so on. So we weren't just looking for judgments that would get sort of better decisions for women. That wasn't really what we were about. Nevertheless, from the outset, we were about difference. We were writing judgments. We were seeking to write different judgments. We embarked on the project with the clear intention to show how feminist judges, and to be clear, we were talking about feminist judges. We weren't talking about women judges. How feminist judges would make a difference to the decision-making process of judges. And like women judges in real life, the manifestation of this difference varied. There's no one, obviously, clearly no one feminist perspective. And these judgments took many different forms. So sometimes they would come to a different conclusion to the original panel. Many of the members of the project wanted to write a judgment because they felt that the panel had come to the wrong conclusion. Others reached the same conclusion as the original panel, sometimes because they couldn't come to another decision within the rules of precedent, but other times in which they agreed with the decision that the panel had come to, but they felt that the reasoning could have been developed in a particular way, or they wanted to make the point in a particular way. And I smile whenever I talk about this, because we did we did rewrite some of Lady Hale's judgments, who you will all be hearing from later, who is a feminist judge, a real, proper, live, living feminist judge. And we were just pretending to be judges, and we took on some of her judgments as well. I wasn't brave enough to do that. So that's what kind of what we did, and within the context of this panel, I suppose what I wanted to do was to use an example from the project to show how having difference on the bench, or having a different perspective on the bench, can help and improve the decision-making process. And the case I wanted to use was the case R against A number 2. Yeah. Don't you know it? This was a case that was a very contentious case in the UK. It was well known by feminist activists. It was a case involving the use of sexual history evidence in rape trials. And what had happened was that there had been a lot of feminist campaigning to bring about legislation that would restrict the use of sexual history evidence in such trials. And a piece of legislation was enacted which did just that. And within 4 days, there was a case brought by a defendant suggesting that the restriction of sexual history evidence was limiting his right to a fair trial. So this was the case that was heard that was to decide whether this was the case. Now, I'm not proposing to go into detail on the law of the sexual history evidence and how that all worked. I'm going to leave that by the way. The reason why this case was... One of the reasons why this case was controversial. So the first reason was because it was a case that where the courts were being asked to immediately look at a piece of legislation that had been campaigned for and that had been achieved. The second was the Fawcett Society, which is the UK's leading campaign group for equality between men and women, challenged the all-male makeup of the bench that was going to hear this case. This case was in 2001. At the time, there were no women in our appellate committee of the House of Lords. Lady Hale was yet to be appointed in 2004. And so the Fawcett Society sort of suggested that at the heart of this issue was, was whether, in terms of the sort of whether a previous sexual relationship between a man and a woman was relevant to the consent that she'd given on a latter occasion. They argued that this was an issue that was deeply contested along gender lines. And so to have a court to determine this without reference to a woman's perspective would give rise to a reasonable apprehension of bias amounting to a breach of a guarantee, amounting to a breach of the guarantee to have an impartial tribunal. So the Fawcett Society sort of sought to get to have a woman's view on the bench when this case was being decided, and they suggested that the conclusion, the solution was to have two women being drafted up from the Court of Appeal to do that. Their case failed. It was heard without oral hearing. Or explanation by a panel of three male law lords who suggested that they didn't need to have there wasn't a sort of alternative perspective that needed to be heard in order to ensure the impartiality of the bench here. They did, however, allow for a third party intervention from the women's groups, which was written from by Rape Crisis. There's a strong argument here that isn't perhaps a sufficient solution, that this intervention may well have had greater strength had it been made by a judge who was equal to those on the bench as opposed to coming from a third party. So by the time the case got to the court, you have a contentious issue being heard by a panel which many people sort of felt were not in a position to decide it. Now, Claire McGlynn was the author of the feminist judgment in this case, and unsurprisingly, when she came to rewrite the decision, now this isn't the decision as to whether there should be statute should be read down. This wasn't the decision as to whether there should be a woman on the bench deciding this case. The decision was whether the statute should be read down. The original panel felt that it should. They basically drove a coach and horses largely through a number of the aspects of the case. And Claire McGlynn disagreed. So Claire McGlynn writes a dissent from the original decision upholding the restrictions that had been placed on the use of sexual history evidence by the legislature. And she does so by sort of questioning the assumption at the heart of the case, which is that, somebody, if you've had sex with somebody before, that you will, that's relevant to whether you will do so again. And she does it as you'd expect, in a way in which she she uses the argument, she reorientates the argument away from focus on the defendant's right to a fair trial to looking at way in which the right to the fair trial applies. Fair trial applies both to the defendant and the claimant. However, as I say, I give you that sketch of what Claire McGlynn said to just to show you that she makes a different argument, and whether you agree with her argument or not, and I've not really given you enough to decide whether you're going to agree on her. What the judgment shows is that there was a different view to be had here, that there was a different way of a different conclusion to come to within the confines of the law. It gives credence to feminist arguments that some things, far from being a matter of common sense or human nature, are in fact deeply contested, and that what is common sense to some will not be common sense to others. So we have a judgment where, even if we're not persuaded by what the feminist judgment says, the judgment highlights the force of the objection raised by the Fawcett Society to having an all-male panel. That shows that there was a different view that could be taken of the legal issues at hand, and that this could and should have informed the panel's decision in the case, if only to ensure that they were reasonably dealt with and dissmissed, if only to add a dissenting voice. It shows that the law lords that rejected the Fawcett Society arguments were wrong to think that there were not alternative perspectives at hand. And in doing so, for me, what the feminist judgment does here, and it's what the feminist judgment, all the feminist judgments do, although in different ways, is they show the extent to which judicial decision making is informed and influenced by a judge's own values and perspectives. This isn't unique to women judges. This is all judges, men and women. And it adds weight to the argument that a judiciary is stronger and what they do, the justice they dispense, is better if they are more diverse, if the decision makers are more diverse. And insofar as judges bring their own experiences and understanding of the development of law and in individual cases to their decision making, that diversity matters. And this then brings me back to my opening point, that therefore getting... You know, we can have all sorts of arguments about how women judges are different and how this is manifested and whether we can find it and what cases it appears in and so on. And they can lead us in sort of ever-decreasing circles. But insofar as we recognise that gender is something that can make a difference and can inform judgment, it makes real the claim that if we want the judiciary to be the best that it can be, i.e. we want the judiciary to do its job well, we want it to make good decisions, then it needs to be a judiciary that is diverse. A diverse judiciary is better positioned to do its job, which is to deliver justice. And so that's why we should want a more diverse judiciary, and why there should be more women, and the effect that having more women on the bench would have.
Thank you.
Thank you, merci beaucoup.